Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Géographie à la carte est aujourd'hui consacrée à l'épopée, au déclin et à la possible renaissance du ferroviaire aux États-Unis. C'est le réseau le plus vaste du monde avec tout de même 220 000 km de voies parcourues de trains aux noms romantiques comme l'Empire Builder, le California Zephyr ou le Sunset Limited. Mais beaucoup d'Américains considèrent les voyages en train comme l'apanage des retraités ou des phobiques de l'avion. Et il est encore loin le moment où de véritables TGV y circuleront à 350 km à l'heure comme au Japon, en Chine ou en Europe. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons vous raconter ce soir.
France Culture, Géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une seule invitée pour aborder ces questions ce soir, la géographe Charlotte Ruggieri, chercheuse associée à l'université, Gustave Eiffel, grande spécialiste de notre sujet puisqu'elle a fait sa thèse de doctorat sur la grande vitesse ferroviaire en Californie. Elle s'est également intéressée aux controverses que suscite la construction de lignes de chemin de fer au pays des pick-up. Elle est enfin cofondatrice de la revue Urbanité. Mais comme chaque jeudi soir pour commencer...
Des flèches, un plan, des ronds et des points, c'est la carte introductive.
La carte introductive, on commence avec elle, ou plutôt les cartes introductives. Charlotte Ruggieri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez choisi de nous présenter ce soir deux cartes. Est-ce que vous pouvez commencer par nous les décrire ?
Oui, j'ai choisi deux cartes. En fait, j'ai choisi une carte du réseau ferroviaire actuel aux États-Unis. Et une carte du réseau des autoroutes et des autoroutes fédérales et fédérées, donc gérées soit par le gouvernement fédéral, soit par les États, parce que ça permet tout de suite de voir en fait la différence de densité du réseau entre un réseau ferroviaire très lacunaire en fait, avec plein d'espaces aux États-Unis pas du tout desservi, et à l'inverse un réseau routier très dense.
Alors ces deux cartes, avant que vous alliez plus loin, on peut les voir sur Twitter, on peut les voir aussi sur le site internet de l'émission, et c'est vrai que d'un côté il y a une sorte de plat de spaghetti, hein, tout est très vascularisé, oui, et de l'autre il y a quelques lignes, parfois une seule qui traverse un état, il y a même des états qui sont traversés par aucune ligne de train.
Aucune ligne, c'est ça. Et elle est intéressante d'abord parce que visuellement on voit tout de suite la différence, et cette différence elle s'explique par des choix politiques essentiellement entre un mode de transport qui a été fortement soutenu par des aides de l'État, la route et l'autoroute, et un autre qui a été en fait abandonné et qu'on essaye de sauver de manière un petit peu chronique mais difficile depuis des décennies en fait, le transport ferroviaire.
Donc c'est une très bonne introduction à l'émission qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on va raconter justement comment le train dans ce pays a connu son heure de gloire et comment aujourd'hui il est un peu en état de mort cérébrale, vous diriez cela ?
Ouais, je ne serais pas aussi dur quand même. Alors effectivement, oui, le train, ça a permis de construire les États-Unis. On a toujours cette image du train au 19e siècle. Qui en fait, si on regarde là, pour le coup, des cartes du réseau ferroviaire au 19e, s'approche de la carte du réseau des autoroutes actuelles, avec peut-être même trop de voies et trop de gares à une époque. C'est un réseau qui est d'ailleurs peu cohérent, en fait. À certains moments, vous avez des trains qui vont suivre le même itinéraire, avec deux gares dans la même ville, mais pour aller au même endroit, donc ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Et un réseau qui se développe comme ça de manière un petit peu anarchique grâce à des acteurs privés, des compagnies ferroviaires qui veulent créer leur voie.
Comme c'était le cas en France aussi à l'époque.
Exactement. Voilà. Les logiques sont les mêmes aux États-Unis qu'effectivement dans d'autres pays européens. Et puis, le réseau atteint son, enfin, ça commence tout doucement dans les années 1830, il atteint son apogée dans les années 1880. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce mode de transport va profondément façonner le pays. On va fixer les fuseaux horaires pour pouvoir fixer les horaires des trains. Au début, il n'y a même pas d'horaire, en fait, pour les trains. On arrive, on regarde si on peut prendre un train et on monte dedans sans billet. Et il y a notamment des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé là-dessus sur comment la population a aussi appris à prendre le train.
C'était pas évident au départ pour tout le monde.
Bah, c'était pas évident, bah, en fait, tout simplement parce que on construisait des voies, on mettait des trains, et puis les gens montaient dedans. Et puis donc il y avait des gens sur les toits, il y avait des gens un peu partout, pas de billets.
Puis, c'est vraiment l'imaginaire des westerns.
C'est l'imaginaire des westerns, mais qui est pas totalement faux, en fait. Hein. Les westerns partent pas de nulle part. Et puis après, le train partait, et même on savait pas trop où il allait s'arrêter, en fait. Donc c'était vraiment l'aventure, quoi. Et puis après, il y a eu, il y avait trop de trains, trop de lignes, donc une concurrence trop forte entre ces compagnies. Et donc, évidemment, les compagnies les moins solides vont commencer à décliner, à disparaître face aux plus solides, quoi, en fait.
Alors, on va revenir sur cette histoire-là, Charlotte Ruggieri, mais peut-être pour commencer, voyageons un peu avec vous. Prenons le train aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez pris déjà beaucoup, ce train ?
Mais oui et non. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle beaucoup. Moi, je trouve que je ne l'ai pas pris beaucoup, parce que justement, en fait, pas autant que j'aurais aimé le prendre. Parce que j'ai travaillé sur un projet, sur un train qui n'existe pas pour le moment. C'est un peu bizarre de dire que j'ai travaillé sur quelque chose qui n'existe pas, mais c'est un peu le cas. Je travaillais sur un projet et donc je suis allée dans des régions...
Sur un projet de train en Californie.
En Californie, et donc je suis allée dans des régions où pour le moment il n'y a pas de train en fait. Et donc j'étais obligée de me déplacer en voiture. Et à chaque fois que je partais en terrain en Californie, je louais une voiture en fait. J'étais obligée en fait. Je l'ai beaucoup plus pris le train sur la côte est, où le réseau est plus dense, en fait. Mais c'est vrai qu'en Californie, vous êtes un petit peu victime du réseau lui-même, à savoir que ça va plus vite de se déplacer en avion. C'est plus simple, parfois, de prendre la voiture parce qu'il n'y a que ça, en fait. Et donc, oui, je prenais le train, mais sur des distances assez courtes, finalement. J'ai jamais traversé la Californie en train, par exemple.
Mais est-ce que c'est un plaisir de prendre le train là-bas? Il y a beaucoup de gens en Europe qui adorent prendre le train. Est-ce que c'est le cas aussi pour les Américains?
Alors, pour les Américains, je parlerai pas pour chaque Américain ou Américaine, mais je dirais pas que c'est un plaisir de prendre le train là-bas. D'abord parce que c'est pas évident de prendre le train aux États-Unis. Surtout quand on est habitué à prendre le train en Europe, et particulièrement en France, où c'est assez simple de prendre un billet, d'arriver dans une gare, de trouver le quai et de monter dans le train, en fait. Aux États-Unis, déjà, il faut trouver la gare.
Qu'elle est cachée ?
Alors, elle peut être cachée, elle peut ne pas exister. Moi, quand je suis arrivée pour mon premier terrain aux États-Unis, quand j'étais en Master 1, j'ai fait mon premier terrain à San Francisco. Et en fait, à San Francisco, il n'y a pas de gare. Et ça peut sembler très étonnant, vu la taille. C'est quand même une très grande ville. Il n'y a pas de gare, en fait. Elle n'est pas dans San Francisco même. Donc, il faut aller la chercher, en fait, ailleurs. Elle est de l'autre côté de la baie. Donc, déjà, il y a ça. Trouver les gares.
Et comment on explique qu'à San Francisco, il n'y ait pas une gare qui aille jusqu'au centre-ville?
En fait, elle a été abandonnée. Alors maintenant, il y en a une. Enfin, je tiens à préciser qu'ils se sont rattrapés depuis. Il y en a une qui a été inaugurée il y a quelques années. Mais pareil, en fait, je ne sais pas si ça serait évident, notamment aux yeux de quelqu'un qui vient d'Europe, parce que c'est un immeuble, en fait, tout en verre, en acier. Ça ressemble à un immeuble de bureau, en fait, cette gare. Et il y a un très beau jardin, d'ailleurs, aussi à côté. Enfin, c'est un très, très beau bâtiment, mais ça ne ressemble pas du tout à l'image qu'on aurait, nous, d'une gare en Europe, en fait. Ce bâtiment un peu monumental de la gare.
Ce qui prouve un petit peu la place qu'on donne aux ferroviaires dans ce pays-là, puisque... En France, c'est en effet devenu les gares des endroits qui ont constitué un peu les villes, dont on a fait, vous l'avez dit, des monuments, Charlotte Ruggieri. Alors que aux États-Unis, peut-être que c'est simplement un endroit pratico-pratique, un lieu pour les communications et seulement pour le transport, sans cet imaginaire monumental qu'on trouve en Europe.
Alors, l'imaginaire monumental, il existe et il y a des très belles gares aux États-Unis. Moi, j'aime beaucoup la gare de Washington, mais j'ai aussi beaucoup d'affection pour la gare de Los Angeles, mais parce que j'ai travaillé sur elle, qui est très jolie et qui s'inscrivent dans des mouvements architecturaux de l'époque. La gare de Los Angeles, elle est considérée comme la dernière grande gare des États-Unis, parce qu'elle a été inaugurée en 1939. Vraiment, on est à la toute fin de la période, de la grande période du ferroviaire. Et donc, dans certaines villes, on trouve quand même ces monuments. Mais effectivement, dans de nombreuses villes, on les a abandonnés. C'est devenu des bâtiments autres, en fait, le plus souvent. Et donc, aujourd'hui, quand on essaye de le reconstruire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend plutôt modèle sur les gares asiatiques japonaises, avec l'idée d'une gare qui va accueillir, alors certes, des trains, mais pas que des trains d'ailleurs, aussi des cars, d'autres réseaux de transport, mais aussi des bureaux, des logements, des commerces, en fait. C'est pas seulement un lieu de transport, concrètement. Et effectivement, après, malgré tout, quand on va sur la côte Est, hein, on croise de très belles gares qui peuvent encore avoir une position centrale pour certaines. La gare de Washington est quand même tout près hein, de la Chambre des représentants.
Elle est mythique, cette gare de Washington, parce que les chefs d'État, traditionnellement, arrivaient à la Maison-Blanche en train.
C'est ça, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, plus de quelques décennies, mais ce n'est pas si long que ça. Et elle est vraiment pas très loin, voilà, de la Maison Blanche, du Congrès, tout ça. Mais on va dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a abandonné quand même un petit peu les quartiers autour, qui connaissent un peu un renouveau maintenant, mais c'est assez récent. Et donc, effectivement, bah, c'est des quartiers et des lieux qui ont perdu de leur centralité, même s'ils sont encore centraux géographiquement, en fait.
Alors, pour poursuivre, Charlotte Ruggieri, sur l'expérience que consiste la prise du train aux États-Unis, est-ce que on vous a fait des commentaires quand vous avez dit que vous travailliez sur ce sujet ou que vous preniez le train? Est-ce qu'on vous a dit, mais c'est d'un autre temps, c'est très lent, c'est très cher? Ou est-ce que vous n'avez pas entendu ce genre de choses?
Ah, ben si, mais j'ai passé ma thèse à entendre ça. D'abord, la première surprise, c'était de se demander pourquoi quelqu'un qui vient de France travaille sur le train, alors qu'il y a des trains qui fonctionnent bien en France. Et on s'en rend compte quand on va aux
États-Unis.
Peut-être
par sadisme envers les pauvres Américains que vous étudiez sur ce sujet.
Oui, c'est ça, j'avais envie de souffrir. Donc, non, mais en fait, bon, voilà, tout simplement le fait de se dire, mais pourquoi vous êtes ici à travailler sur le train? Et c'est vrai que parfois, moi-même, je me suis posé la question de pourquoi j'avais choisi ça aussi, mais c'est un autre sujet. Mais il y a cette réaction-là. Il y a aussi des réactions tout aussi étonnées, mais plutôt de dire, en fait, de toute façon, personne ne prend le train en Europe, personne ne prend le train en Asie, personne ne prend le train aux États-Unis, ça ne sert à rien, votre sujet. Bon, ça, du coup, c'est un petit peu déprimant.
Ça, c'est un peu mal informé, parce que quand même beaucoup de gens prennent le train dans ces trois continents.
C'est pas très agréable à recevoir comme information. Et après, effectivement, plutôt un étonnement en fait de voir quelqu'un qui vient d'un pays où il y a un réseau ferroviaire public qui fonctionne bien et dans un pays où c'est très compliqué en fait.
Parce que c'est effectivement très cher, par exemple, de voyager en train aux États-Unis.
Alors c'est cher, effectivement. Même si et j'ai re-regardé d'ailleurs dans la journée pour vérifier. L'écart commence un petit peu à s'atténuer parce que, comme un petit peu partout dans le monde, le transport aérien coûte cher, en fait, de plus en plus cher, à cause notamment des prix du pétrole. Mais malgré tout, par exemple, si vous voulez traverser le pays, faire New York, San Francisco, ce qui est faisable hein, en prenant deux trains successifs et en ayant une semaine devant soi.
Une semaine.
Il faut un peu plus de 6 jours. Ça coûte l'aller-retour, ça va vous coûter autour de 600 euros. Donc c'est vraiment cher. Et actuellement, un aller-retour en avion, ça vous coûterait 400 euros. Donc oui, c'est plus cher, mais à une époque, la différence était vraiment beaucoup plus forte. Enfin, voilà, parce que vous pouviez trouver des billets pour 100, 150 euros pour faire l'aller-retour en avion, quoi, en fait.
Donc globalement, vous avez eu quand même des retours un petit peu étonnés sur le fait que vous vous intéressiez au train. Ce qui fait aussi que les Américains prennent peu le train, et ça vous l'avez constaté, Charlotte Ruggieri, c'est qu'il y a une peur des attentats terroristes. Alors, c'est pas quelque chose auquel on penserait comme ça spontanément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, en fait, moi, ça m'a beaucoup étonnée. Moi, j'ai fait ma thèse, donc j'ai commencé ma thèse en 2011, je l'ai soutenue en 2015. Et, enfin, les dates ont leur importance parce que c'était avant l'attentat du Thalys, en fait, en Europe. Et donc, quand j'ai commencé à faire mes premiers terrains en Californie, les anti-grande vitesse en Californie me disaient le problème, en fait, du train, c'est qu'il n'y a pas les mêmes contrôles que quand on prend l'avion.
En effet, il n'y a pas à enlever ses chaussures, par exemple, quand on monte dans le train pour vérifier qu'on ne transporte pas d'explosifs.
Et comme les États-Unis sont quand même assez logiquement, hein, resté effectivement traumatisé par les attentats du 11 septembre, il y avait tout ce discours de dire moi, je prendrais pas le train parce que, voilà, c'est pas sûr. Et donc, n'importe qui peut monter dans un train et le faire exploser. Et donc, souvent, ça revenait dans la discussion de me dire, mais vous, vous n'avez pas peur de prendre le train en France. Et en fait, enfin, c'est bête, mais je n'y avais juste jamais pensé, en fait, un peu bêtement de me dire, bah, non, j'ai pas peur, en fait, voilà. Alors, c'est vrai que, effectivement, bah, depuis, on a vu que ça pouvait arriver. Et d'ailleurs, il y a un contrôle maintenant, par exemple, pour prendre le TGV, il y a des portiques, en fait, en France. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas, pour prendre un train, que ce soit ce qu'ils considèrent comme leur train à grande vitesse, qui est juste un petit peu plus rapide que les autres ou les autres trains, il n'y a pas de portique pour accéder au train. Et
il n'y en a pas non plus en France sur toutes les gares. Il y en a dans les grandes villes, mais pas dans les
pas partout. Et donc, bah, effectivement, vous rentrez dans le train et votre billet sera contrôlé pendant le voyage, en fait. Donc ça, c'était vraiment une réaction, mais voilà, qui était, c'est un argument qui était utilisé par les anti-trains, en fait, quand même, hein, uniquement.
Qui prend le train, Charlotte Ruggieri, aux États-Unis ? Est-ce qu'une classe sociale prend davantage ce moyen de transport qu'une autre ?
Alors, c'est assez compliqué de savoir qui prend le train, et surtout, ce ne sont pas obligatoirement les mêmes personnes selon les distances et selon les régions, en fait. D'ailleurs, Amtrak...
Donc la SNCF américaine.
La SNCF américaine, la compagnie ferroviaire américaine, divise son réseau en trois grandes catégories. Les trains longue distance, qui sont donc les transcontinentaux, qui traversent le pays du nord au sud, d'est en ouest. Les trains régionaux, qui vont par exemple traverser toute la Californie ou tout le nord-est du pays. Et les trains locaux, qui sont des trains, en fait, plutôt de déplacement quotidien.
Type vont... train de banlieue, TER,
voilà,
comme on les connaît
RER,
chez nous.
RER, TER, je sais pas. Voilà. Et en fait, effectivement, bah, selon le type de train, on n'a pas le même public. Mais dans les faits, bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui prend le train aux États-Unis. Enfin, pour les trains longue distance, ça représente 1% des voyages, le train. Pour les déplacements quotidiens, domicile-travail, c'est autour de 5% pour les transports publics, donc pas que le train, en fait. Et donc, en fait, c'est souvent des gens, en fait, qui n'ont pas de voiture, qui sont un petit peu...
Ce qui est assez rare, probablement, aux États-Unis.
Ce qui est assez rare, effectivement, et qui sont, sont entre guillemets, on va dire, un petit peu condamnés à prendre le train, même si il faut faire attention, parce que dans certaines régions, c'est plus cher de prendre le train que d'avoir une voiture, en fait. Parce qu'une voiture d'occasion sur le marché aux États-Unis, c'est pas si cher que ça, en fait. Et l'essence n'est pas si chère que ça aux États-Unis, même si elle augmente comme partout. Donc vous avez à la fois des trains qui sont pris par des catégories sociales aisées, notamment blanches, qui viennent de leur banlieue vers, par exemple, le centre pour aller travailler, mais c'est pas non plus l'essentiel. Ou après, vous avez d'autres catégories plus modestes qui vont aller, par exemple, aussi prendre le train parce qu'elles n'ont pas obligatoirement le choix.
Alors j'ai lu justement sur ces trains de banlieue qu'il y avait des villes dans la banlieue de New York, dans le New Jersey, qui avaient refusé que des trains de banlieue aillent jusqu'à eux, par peur finalement que ça amène toute une population plus défavorisée. Est-ce que vous avez entendu parler de ça aussi ?
Alors ça, c'est très compliqué. Il y a tout le temps des conflits, en fait, dès qu'ils veulent étendre des voies ferroviaires. Il y a eu aussi tout un débat dans la baie de San Francisco au moment où il y avait le projet d'étendre le réseau de la baie de San Francisco qui s'appelle le BART, comme dans Simpson. Et qui devait donc étendre le réseau entre San Francisco et la Silicon Valley, donc notamment pour permettre les mobilités des gens qui travaillent dans la tech. Et donc il y a eu une opposition, par exemple, effectivement, des personnes qui habitaient dans la Silicon Valley, donc qui sont très aisées vu les prix de l'immobilier dans la Silicon Valley. Alors qu'ils utilisaient des arguments plutôt de nuisance, de bruit, de passage du train, tout ça. Mais derrière, quand les personnes qui ont travaillé là-dessus ont creusé un peu, il y avait aussi une crainte, effectivement, de voir arriver une population non désirée.
Qui paraît assez infondée. Puisque...
Qui paraît totalement infondée, parce que vu les prix de l'immobilier, de toute façon, c'est inaccessible, en fait, cette région.
Il n'y a rien à faire si on n'habite pas dans la Silicon Valley. Pas tellement de raisons d'y aller, j'imagine.
Bah, si vous travaillez pas chez Google ou Apple, vous avez pas beaucoup de raisons d'y aller. Oui, non, c'est pas très passionnant comme endroit.
Alors pour terminer avec vous, cette espèce de premier panorama du train en Amérique, Charlotte Ruggieri, il faut expliquer aux auditeurs que il y a plusieurs réseaux dans ce pays. C'est pas comme en France où vous avez SNCF Réseau et ensuite des compagnies éventuellement privées qui peuvent rouler dessus. Là, c'est des réseaux qui se font concurrence entre eux ou qui sont complémentaires entre eux, mais en tout cas qui n'appartiennent pas à une seule entité.
Oui, et ça, c'est un héritage du 19e siècle. Qu'au fur et à mesure, donc, les compagnies privées ferroviaires les moins solides disparaissaient d'année en année. Et puis, il en est resté 7 solides, en fait, comme l'Union Pacific, par exemple, la BNSF, tout ça. Et ces compagnies, elles possèdent donc les voies, l'infrastructure ferroviaire. Elles possèdent leurs trains, en fait. Et donc, ces compagnies, en fait, à un moment, comme le transport de personnes déclinait fortement, elles ont décidé de ne faire plus que du transport de marchandises, de fret.
Ce qui fait qu'on est dans une situation un peu inverse à ce qu'on va connaître en France, avec beaucoup de fret. Les 4/5 en fait, des trains sont ces immenses trains qui, très lentement d'ailleurs, traversent le pays, alors que chez nous, c'est le fret qui ne fonctionne pas, et en revanche, les transports de passagers qui marchent bien.
Oui, en fait, le transport de fret, le train transporte à peu près 40% des marchandises dans le pays, parce que le pays est très grand, en fait. Et que pour transporter des marchandises, la lenteur, selon le type de marchandises qu'on transporte, c'est pas trop un problème. En fait, on peut aller lentement, alors qu'effectivement, à l'inverse, dans le transport de personnes, et je pense qu'on y reviendra, on est rentré depuis les années 1960 dans une quête de la vitesse, toujours plus vite, en fait. Et donc, en fait, bon, comme le transport de voyageurs ne fonctionnait plus, les compagnies privées ont décidé de centrer leur activité sur le transport de fret et ont voulu même totalement abandonner le transport de personnes dans les années 1960, en fait. Et donc, ces compagnies, l'État fédéral est intervenu à ce moment-là, et ces compagnies, en fait, ont fait une sorte de contrat avec l'État en leur donnant du matériel roulant, donc en leur donnant des trains, pour créer donc Amtrak, qui va donc être créée en 1970, en fait, cette compagnie, donc une sorte d'équivalent de la SNCF, même si c'est un peu rapide de dire ça. Et du coup, Amtrak a passé des contrats avec ces compagnies pour faire circuler ces trains sur leurs voies. Et donc Amtrak ne possède très très peu de voies, en fait.
Donc la grande compagnie nationale américaine possède peu de voies et donc dépendante finalement du privé. Et si, par exemple, il y a des grèves, comme on a pensé qu'il y en aurait cette semaine dans les compagnies privées, eh bien Amtrak ne peut pas non plus opérer.
Si la grève avait eu lieu, donc effectivement, a priori c'est réglé, c'est vous qui me l'avez appris, on n'a pas regardé à la même heure les infos. Si la grève avait eu lieu, il y aurait eu à peu près 2/3 du réseau, des trains d'Amtrak qui n'auraient pas pu circuler d'ici une semaine, 15 jours en fait. Dans certaines régions, comme la région de Chicago, ça aurait été vraiment presque 80% du réseau qui aurait été mis à l'arrêt en fait. Parce qu'effectivement, si les compagnies ferroviaires, donc en fait, en gros, je pense que tout le monde n'est pas au courant de cette histoire de grève, mais qu'en fait, les employés des compagnies de fret négocient depuis 2 ans avec ces compagnies pour avoir des augmentations de salaire, et comme les syndicats estimaient qu'elles n'avaient pas les augmentations souhaitées, elles avaient menacé de grève. Et donc, en fait, si ces employés arrêtaient de travailler, les trains ne pouvaient plus circuler, aussi bien les trains de fret que les trains de personnes.
Conduire une voie ferrée de cette longueur, c'est le rêve d'un fou.
Ah, nous vivons en un temps fantastique.
Un chemin de fer du Missouri en Californie. Voler dans les airs pendant que vous y êtes.
Le président Lincoln est pour.
C'est la plus grande folie qu'un cerveau humain ait jamais conçue.
Cette voie ferrée sera l'avenir des États-Unis. Le long de ses rails, de nouvelles villes naîtront.
Un extrait du film de Cécile B. 2000, Pacific Express, qui date de 1939 dans Géographie à la carte et qui raconte une histoire bien américaine, celle de la conquête de l'Ouest par le train. Vous avez commencé d'en parler tout à l'heure, Charlotte Ruggieri. Je voudrais vous soumettre une citation de l'historien Christian Wolmar, qui est un historien du ferroviaire, et qui dit « La férocité avec laquelle les Américains se sont tournés contre les trains peut uniquement s'expliquer par la profondeur de leur histoire d'amour initiale pour eux. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression que le ferroviaire, par tous ces films aussi, le pont de la rivière Kwai, tous ces westerns, est très ancré dans l'imaginaire américain, que ça constitue finalement une part de l'identité américaine, ou alors est-ce que pour vous c'est du passé?
Oui, c'est une forme de passé, c'est une forme de nostalgie. D'ailleurs, un petit peu, une sorte de... On va magnifier ce passé ferroviaire en voyant pas, en fait, quand même, certains aspects négatifs. Je veux dire, la création de ces grandes compagnies ferroviaires, et pourquoi aussi, à un moment, l'État fédéral a fini par intervenir, c'est parce qu'il y avait une corruption phénoménale parmi ces compagnies ferroviaires, par exemple, qui se sont enrichis de manière assez extraordinaire et peut-être un peu trop d'ailleurs.
On aurait pu passer aussi des extraits de films qui racontent comment au 19e un certain nombre de compagnies rallongeaient sciemment les kilométrages et donc faisaient des ronds, des cercles qui étaient à peu près inutiles au lieu d'aller en ligne droite, tout ça pour gagner davantage d'argent.
Pour gagner de l'argent, et il y avait ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y avait aussi des intérêts immobiliers énormes. Par exemple, en Californie, mais aussi dans la région de New York, vous aviez des compagnies ferroviaires qui étaient aussi des compagnies, des promoteurs immobiliers. Et vraiment, en Californie, moi, je trouve que ce triplé est toujours assez étonnant, mais on construisait donc des voies ferroviaires à Los Angeles, donc on construisait des logements ensuite pour loger les gens qui allaient prendre le train ensuite pour aller travailler dans le centre de Los Angeles. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on faisait des trains le week-end quand les gens ne travaillent pas. Donc il a fallu trouver comment les occuper. Donc qu'est-ce qu'on a construit? Eh ben on a construit des parcs d'attractions, les Luna Parks. On les a construits.
Qui sont aussi des voies ferrées d'ailleurs.
Qui sont aussi des voies ferrées.
Elles font des loopings.
Et on les a construits en fait au terminus, bon, souvent à New York, à Los Angeles, vers la côte, sur la mer, pour que les gens aillent jusqu'au bout de la ligne en fait, et que les trains soient pris le week-end. Donc il y avait vraiment tout un système où on organisait votre vie dans la semaine, le week-end, et tout était fait pour que vous preniez le train en fait.
Donc le train a connu un déclin à partir de la Première Guerre mondiale. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que les États-Unis étaient vraiment un très grand pays du train, avec donc le premier réseau, c'est toujours le cas, mais enfin, de très loin, avec 360 000 kilomètres de voies à l'époque, un réseau donc très impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, ce qui se passe, c'est tout simplement l'émergence de l'automobile, du transport routier, donc à la fois les camions pour le transport de marchandises et surtout l'automobile individuelle pour le transport de personnes. Les États-Unis, effectivement, à partir vraiment des années 1920, avec des grandes entreprises comme Ford, vont devenir un des grands pays de l'automobile, de la construction automobile, et donc il va y avoir progressivement une motorisation de la société, où on va encourager tout simplement l'achat de voitures, l'utilisation de voitures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, utiliser une voiture aux États-Unis, c'est aussi anarchique que les débuts du train. Il n'y a pas de code de la route, il y a beaucoup d'accidents, parce qu'en plus, du coup, évidemment, les voitures, les trains vont se retrouver, par exemple, en ville aux mêmes endroits. Donc, il y a des accidents tout le temps. Mais bon, ça, on va voir la même chose en Europe, aussi, au tout début de la voiture. Mais donc, concrètement, ça va faire décliner le train, parce que la voiture, elle offre une liberté que le train n'offre pas. Vous pouvez aller où vous voulez. N'importe quand.
Ça, c'est le cas dans tous les pays du monde, et pourtant, le train a tout de même survécu dans d'autres endroits.
Oui, il a survécu parce qu'on a créé la grande vitesse ferroviaire, en fait. Et donc, les États-Unis vont juste rater le coche de la grande vitesse ferroviaire. Mais concrètement, voilà, cette concurrence devient de plus en plus forte, et les États-Unis rentrent vraiment. On trouve plein d'expressions comme ça, dépendance automobile, société de l'automobile, avec une forme un peu d'obsession de l'automobile où vous pouvez tout faire en voiture. Vous pouvez déposer votre linge à la laverie, aller chercher de l'argent, aller au cinéma, voilà, tout ça, quoi. Et le train, finalement, est progressivement abandonné, même s'il faut noter que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il reste important, notamment parce qu'il va permettre le transport des troupes.
Et du matériel.
Donc, c'est vraiment à partir des années 1950 que la bascule se fait véritablement et que le train commence à quasiment disparaître en fait.
Alors ça c'est très intéressant, Charlotte Ruggieri, les années 50 et surtout 60, au moment où le Japon invente le Shinkansen en 1964 à peu près, les États-Unis eux travaillent aussi sur la grande vitesse ferroviaire, ils sont même je crois assez avancés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi justement ont-ils raté le coche, comme vous le disiez à l'instant?
Pour comprendre pourquoi les États-Unis ratent le coche, il faut repartir en fait quand même des années 1950 et de la route. J'y tiens parce que dans les années 1950, en 1956 exactement, il y a un très très grand plan routier qui est voté et qui va construire les autoroutes fédérales, qui vont donc passer d'un État à l'autre aux États-Unis et qui vont permettre de couvrir tout le pays. Et ce plan est soutenu financièrement par l'État fédéral avec en fait une taxe sur l'essence qui va donc en fait permettre de financer tous les ans la construction et l'entretien de routes. Donc il y a un financement qui est pérenne de la route.
Donc ça veut dire que c'est l'État en fait qui à un moment donné décide de favoriser la voiture.
C'est ça. Et à l'inverse, donc dans les années 1960, quand le transport ferroviaire va très mal, le transport ferroviaire de voyageurs et de voyageuses va très mal. Donc, d'un côté, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir la réflexion autour de la création d'Amtrak en 1970. Et effectivement, il y a quand même quelque chose qui travaille un petit peu les États-Unis, c'est le début de la grande vitesse au Japon, et les États-Unis commencent à travailler sur un premier projet qui va s'appeler le Metroliner, qui va être donc sur la côte est, entre Boston, New York et Washington.
Là où c'est le plus peuplé.
Donc on choisit assez logiquement, comme on l'a fait ailleurs, de desservir d'abord là où c'est le plus peuplé. Et ils vont lancer ce train, mais en fait, à la fois par manque d'intérêt politique, par manque de financement, et ben ce train est très très décevant. Il a une vitesse moyenne autour de 160-170 km/h, donc bien moins que le Shinkansen, même s'il allait moins vite à ce moment-là, le Shinkansen. Mais après, il va pas très très vite, mais il va quand même un peu plus vite que les autres trains, et il va être fréquenté, enfin il va être pris ce train. Malgré tout,
c'est pas totalement un échec.
Non, c'est pas une réussite totale, mais c'est pas un échec. Le problème, c'est que ce Metro Liner, qui est donc pas vraiment un train à grande vitesse hein, quand même, va rester une exception, en fait, pendant très longtemps.
C'est-à-dire que comment on explique ça? Alors, vous dites que c'est politique, mais c'est idéologique?
Oui, c'est idéologique et politique, parce qu'en fait, donc, on finance ce projet, mais après, comme je le disais là pour les autoroutes, il n'y a pas de budget pérenne pour le train. En fait, Amtrak, son budget est renégocié tous les ans au Congrès, avec, évidemment, si le Congrès, c'est un peu schématique, mais c'est quand même un peu vrai, si le Congrès est plutôt à tendance républicaine, une volonté de réduire au maximum l'argent pour Amtrak. Si le Congrès est démocrate, on maintient l'argent pour Amtrak. Ça ne veut pas dire qu'on l'augmente, mais au moins on le maintient. Par exemple, sous les années Reagan, il y a vraiment une volonté quasiment de faire faillite à Amtrak. Donc en fait, tous les ans, le budget est renégocié avec la possibilité qu'il n'y ait pas de budget, en fait, tout simplement.
Peut-être parce que cette société n'a pas non plus la taille que à la SNCF en France. Hein. Je fais toujours des comparaisons, mais c'est pour nous permettre de mieux saisir les choses. La puissance aussi que peut avoir la SNCF.
Alors effectivement, Amtrak, c'est une compagnie, faible en fait, hein, qui a pas trop de puissance, mais qui surtout en fait, et dans un pays où le transport routier et ensuite, faut pas l'oublier, à partir des années 1970, le transport aérien vont s'affirmer comme les modes de transport dominants, parce qu'il y a un discours qui commence aussi à s'installer à partir des années 1970 et donc de la diffusion très très forte du transport aérien. Et encore plus à partir des années 1980, c'est que de toute façon, les États-Unis sont un pays trop grand pour qu'il y ait des trains efficaces.
Est-ce qu'il y a un début de vérité dans ce discours ou est-ce que vous pouvez le réfuter?
Non, c'est faux. Et en fait, on l'a très bien vu à partir en fait de 2008, quand la Chine inaugure son réseau à grande vitesse ferroviaire.
Qui est maintenant le plus grand réseau du monde.
Qui est le plus grand réseau au monde. Un grand pays peut avoir des trains, évidemment. Enfin, c'est pas réservé aux petits pays. Mais pendant très longtemps, parce que donc le réseau chinois, c'est 2008, hein, l'inauguration, pendant très longtemps, ça va être l'argument majeur de dire on ne peut pas avoir des trains de voyageurs, de voyageuses et des trains à grande vitesse parce que c'est trop grand, ça sert à rien chez nous en fait. On n'est pas la France, on n'est pas le Japon.
Man who played with model trains in the furnished basement painted black. How it pleased him every day, the pattern of the rail, the pattern of the tiny track. One night he slips and hits his head as he reaches for a sleeper car. And the lights kept blinking red, now level with his eye, his miniature plaster gun. The kids knew something wasn't right in the morning when he kissed them all. He didn't say, and the model trains keep going round. Shall we say but solid still. With a fist of pink and blue and red, he will swallow every pill to help him with his fear of getting from the bath to bed. And the model trains keep going round.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Cased in rhyme, a face that's chapped with tiger's tears. How his wife will mark the time while learning how to love. He's been like this for 7 years.
Imagine boarding a train in the center of a city.
Imaginez monter dans un train au centre-ville. Plus besoin de courir vers un aéroport et à travers un terminal. Plus de retard, plus d'attente avant de décoller, plus de bagages perdus. Plus besoin de retirer ses chaussures. Ce ne sont pas des promesses en l'air extravagantes pour le futur. Ça existe maintenant et cela existe depuis des dizaines d'années. Le problème, c'est que ça se passe ailleurs. En France, par exemple, le train à grande vitesse a tiré des régions de l'isolement. Créer de la croissance, transformer des villes endormies en destinations touristiques florissantes.
On a entendu successivement la chanson Model Trains de l'album Books of Travelers de Gabriel Kahn. Et ensuite, vous avez reconnu évidemment Charlotte Ruggieri, Barack Obama, le 16 avril 2009, 3 mois seulement après son élection, qui faisait la réclame pour la relance du train et de la grande vitesse ferroviaire aux États-Unis. Le fait que 3 mois seulement après son arrivée à la Maison-Blanche, il fasse ce discours qui est tout de même assez volontariste, est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'il en avait fait une priorité durant sa campagne?
Alors, c'est pas une priorité pendant sa campagne parce que c'est clairement pas un sujet qui est quand même mobilisateur, le train aux États-Unis pour se faire élire président. Mais en revanche, ce discours, alors même si on peut critiquer la deuxième partie ou quand on fait de la géographie, ce que dit Barack Obama est faux. Enfin, je suis désolée de le dire, mais je pense qu'il m'entend pas, donc c'est pas grave.
Oh, on sait pas. Hein.
On sait pas.
Mais en tout cas, c'est vrai que les grandes villes de région n'ont pas entendu le TGV pour se développer.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, mais ça, malheureusement, c'est un discours très très classique en fait, hein, de dire le train va arriver.
Que les élus portent beaucoup.
Que les élus portent et magiquement, ça va tout développer. Mais ce qui est important, c'est que quand même ce discours de Barack Obama, il y a deux discours en fait de Barack Obama la même année quand il lance ce grand projet ferroviaire. C'est un tournant parce que c'est la première fois dans l'histoire ferroviaire du pays que un président affirme en fait l'importance du transport ferroviaire et lance une grande politique ferroviaire. Parce que tout à l'heure, vous me posiez la question aussi de pourquoi il n'y avait pas de train, mais parce qu'en fait, aux États-Unis, comme je le disais, comme au départ, ça a toujours été mené par des compagnies privées, il n'y a pas cette idée, et c'est une différence profonde avec la France, que le transport ferroviaire doit être un service public. Après, c'est sûr que la notion de service public est compliquée aux États-Unis, mais c'est fondamental pour comprendre aussi pourquoi de nombreux présidents et de nombreux élus ne considèrent pas nécessaire de financer le train parce que ce n'est pas un service public, ça dépend de compagnies privées. Et en fait, Barack Obama, il a fallu du temps pour comprendre ce que ça initiait, ce mouvement, enfin ces discours de 2009 et ce projet, comment ça initiait en fait un changement à la fois financier, géographique et politique, de dire le train c'est important, mais qui va être aussi, et ça on va le voir avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, qui était son vice-président, et le lien n'est pas du tout anodin, progressivement un tournant de considérer le train et donc Amtrak comme un service public. Et Joe Biden, c'est ce qu'il aimerait faire en fait, il voudrait changer les statuts d'Amtrak.
Donc le plan de Obama, c'est d'abord ce train Acela, qui est d'ailleurs un TGV français, un TGV d'Alstom, mais fabriqué aux États-Unis et qui relie Boston à Washington. En tout cas, c'était l'un des grands axes de développement du train par Obama.
Alors le train existait déjà, l'Acela, le corridor du Nord-Est, depuis les années 1990, mais effectivement, il y a ce projet de l'améliorer, de faire en sorte qu'il aille plus vite, parce que...
Alors plus vite, ça veut dire quelle vitesse?
Ça veut dire d'essayer de le faire dépasser les 200 km/h. En fait, c'est un train qui maximum peut atteindre les 240 km/h. Sachant que la définition officielle de la grande vitesse dans le monde, c'est justement autour de 250 km/h. Ça veut dire que c'est pas un train à grande vitesse, en fait.
Surtout que quand vous parlez de 220 km/h, c'est une vitesse de pointe.
C'est une vitesse de pointe.
Mais la vitesse moyenne de ce train, c'est plutôt autour de 100, 105 km/h sur l'ensemble de la ligne.
130 à peu près.
130.
Il est très lent, en vrai. Il faut 6 heures pour faire Boston-Washington. Sur une distance à peu près équivalente, par exemple, Tokyo-Osaka, ce serait à peu près l'équivalent, c'est 2h30, en fait, par comparaison. Donc il est vraiment très lent, parce que les voies ne sont pas assez entretenues et que donc la vitesse ne peut pas augmenter, ça c'est une raison. Mais aussi parce qu'il y a trop de trains, à la fois de personnes et de fret sur cette ligne, et donc on ne peut pas atteindre des pointes de vitesse trop élevées, en fait. Et donc, il y a dans le plan Obama vraiment la volonté d'améliorer cette ligne, mais la volonté de construire aussi d'autres lignes ailleurs, notamment d'essayer de booster un peu le projet californien qui dort un peu à ce moment-là depuis plusieurs années, quoi.
Donc ça, c'est l'autre grand projet. On ne parle pas beaucoup des États du centre. On a l'impression que les flyover states, comme on les appelle, c'est-à-dire ces États qu'on survole par avion et qu'on ne traverse pas en train, ne sont pas intéressés par l'idée même du ferroviaire.
Non, parce que là où le plan Obama, qui est un plan Obama-Biden, puisque c'est son vice-président, pour que son plan soit acceptable, il a compris qu'il pouvait pas vendre des trains à grande vitesse dans tout le pays, parce que comme c'est l'argument depuis des années de dire on peut pas avoir des trains à grande vitesse transcontinentaux, le plan qui est présenté, c'est un plan sur certains tronçons uniquement entre des grandes villes, en fait. Donc Boston, Washington, New York, San Francisco, Los Angeles, autour de Chicago, Vancouver, Seattle, par exemple, Portland, en Floride, par exemple, voilà.
Qui correspondent à des nuances politiques traditionnelles aussi, qui sont davantage démocrates
sauf
que dans le centre du pays, sauf en effet la Floride.
C'est anodin, parce que du coup, le gouverneur de Floride...
C'est un swing state, justement, la Floride.
C'est un swing state, mais à ce moment-là, qui est républicain. Et parce que, donc en gros, ce projet Obama, c'est de débloquer des fonds, de l'argent, et il faut que les États se présentent un projet pour avoir cet argent. Donc ça vient des États, en fait. Et donc, effectivement, vous avez un certain nombre d'États qui vont proposer un projet de train, un projet ferroviaire, comme la Californie, par exemple, et effectivement, au début, la Floride. Sauf qu'à un moment, comme il y a un changement de majorité du gouverneur de Floride, le gouverneur suivant républicain va rejeter les fonds et va abandonner le projet, en fait.
Comment est-ce qu'on explique quand même la corrélation entre la politique et la préférence pour le train ou pour la voiture? Est-ce que c'est simplement de dire que quand on est plus individualiste, on est peut-être plus enclin à voter républicain et on est peut-être plus enclin à prendre sa voiture? C'est aussi simple que ça, Charlotte Ruggeri?
Alors, c'est pas aussi simple que ça en détail, mais effectivement, quand même, si on regarde les élus qui sont pro-train, ce sont majoritairement des élus démocrates, et les élus anti-train, ce sont des élus républicains ou républicaines. Mais c'est pas propre au train, c'est tout un débat depuis longtemps aux États-Unis sur ce que je vous disais, la notion de service public, la notion de fonds publics et à quoi doivent servir les fonds publics, en fait. Et comme les républicains sont profondément opposés à des impôts plus élevés, à des fonds publics plus importants pour des projets.
Donc c'est plutôt l'aspect infrastructure.
C'est l'aspect infrastructure.
Rejette. Pourtant, les autoroutes, c'est des infrastructures également.
Oui, effectivement. c'est plutôt ça, en fait, qui est la ligne de partage. Mais il y a des exceptions. Et la première exception, c'est le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger. Rappelons qu'il a été gouverneur de Californie, quand même. Qui va faire voter le projet de grande vitesse ferroviaire.
Donc lui était très pour
le
TGV californien.
C'est ça, et c'est un républicain, et il fait voter le projet, en fait.
Est-ce que l'écologie tient beaucoup dans les choix de soutenir le train? Est-ce que ce sont des discours qui sont portés par les écologistes?
Alors déjà, il faudrait savoir vraiment ce qu'on entend par écologiste aux États-Unis. Il n'y a pas de parti écologiste aux États-Unis. Après, voilà, il y a une
Californie, il y a quand même des mouvements écologistes.
La Californie est connue effectivement pour des politiques écologistes environnementales assez fortes. Et en Californie, c'est un argument majeur de présenter le train effectivement comme un moyen, un mode de transport plus respectueux de l'environnement et qui permettra effectivement cette transition écologique qui est absolument nécessaire. Mais sur le lien écologie-train aux États-Unis, il faut faire très attention puisqu'une grande partie des trains sont des trains qui fonctionnent au diesel. Donc
même les trains de fret, qui en Europe sont considérés comme étant des trains écologiques, parce qu'ils fonctionnent à l'électricité, ne sont pas forcément aussi écologiques aux États-Unis.
C'est ça, en fait, il y a un débat, il y a quelques recherches, il y a deux chercheurs de Berkeley notamment qui ont travaillé là-dessus sur est-ce qu'on peut véritablement considérer le train comme un mode de transport écologique aux États-Unis. Il faut comparer plein de paramètres. Effectivement, la source d'énergie pour faire circuler les trains, le remplissage en fait des véhicules, les distances, et aussi parce que c'est aussi tout le débat qu'on a sur la voiture électrique, c'est avec quels matériaux on les construit aussi, hein, ces véhicules et tout ça. Et quand on met tout bout à bout, bah sur des grandes distances par exemple, le train aux États-Unis n'est pas si écologique que ça en fait, hein, mais voilà, c'est propre à un mode à des choix de véhicules en fait.
Notre administrateur municipal, Ben Casper, devait normalement venir pour tout vous expliquer, mais je suppose que je peux vous donner une idée de la situation. Vous savez tous que la proposition 1 a été votée et que l'an prochain débutera la construction d'une ligne à très haute vitesse d'un coût de 68 milliards de dollars en plein cœur de la Californie. Les terrains en friche situés le long de la voie ferrée et de l'autoroute côtière ont déjà été rachetés par plusieurs holdings, en prévision des développements commerciaux à venir, estimés à plusieurs centaines de millions de dollars, sous forme de subventions fédérales. Et la Réserve fédérale se portera garante de tous les coûts excédentaires.
Alors ça, c'est un extrait de l'épisode 1 de la saison 2 de True Detective, Charlotte Ruggieri. C'est une série dont le contexte est la construction d'un corridor ferroviaire en Californie, justement, c'est de ça dont on parlait à l'instant. Et il y est question d'un homme d'affaires qui cherche à récupérer les terrains qu'il a perdus le long de ce corridor, justement, sur fond de mafia et de tractations louches. Alors parlons un peu mafia et tractations louches. Est-ce que c'est pas aussi un obstacle au train et à la grande vitesse ferroviaire aux États-Unis les questions de corruption, par exemple, Charlotte Ruggieri?
Cette saison de True Detective, qui est loin d'être la meilleure, est pas du tout une pub pour le transport ferroviaire, parce qu'en fait, c'est donc toute une histoire de corruption. Et ça finit, je vais pas spoiler tout, mais ça finit de manière complètement apocalyptique dans une gare qui a donc été effectivement construite en théorie un jour pour accueillir le train à grande vitesse en Californie.
Mais donc, clairement, c'est une histoire basée sur des faits réels.
Non. Surtout la fin. Mais ça va pas donner envie aux gens de prendre le train et d'aller dans cette gare, qui est magnifique par ailleurs, cette gare. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant avec cette série, quand elle a été lancée, moi, j'étais en train d'écrire ma thèse. Et en fait, c'est intéressant parce que de choisir ça comme intrigue pour une série actuelle, pas pour une série historique, Ça peut sembler étonnant parce que ça parle pas quand même à beaucoup de gens. Maintenant, le lier effectivement au milieu mafieux, à la corruption, bon, c'est peut-être pas effectivement la chose la plus fine pour rendre le train populaire, parce qu'il y a pas ces situations-là de corruption.
En réalité, non.
En Californie, non, pas du tout, en tout cas. Après les conflits autour des terres sont réels, mais ça donne pas lieu à cette corruption.
Mais comme à chaque fois qu'on construit une grande ligne...
À chaque fois qu'on construit une infrastructure, en fait, tout simplement, quelle qu'elle soit.
Il y a des projets privés en Californie. Vous nous avez expliqué, Charlotte Ruggieri, qu'il y avait des compagnies privées qui possédaient des réseaux. Est-ce que c'est de nature à encourager, finalement, le train, d'avoir la concurrence comme ça entre différentes sociétés privées, ou est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est un frein ou c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour le consommateur?
Ça dépend de quel projet privé on parle. En Floride, par exemple, il y a un train à vitesse plus élevée, une ligne et un train qui ont été inaugurés par un promoteur immobilier, Brightline, qui fonctionne depuis 2020. Alors au début, c'était un petit peu compliqué parce que ça a été inauguré au tout début de la pandémie, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est allé assez vite comme projet, parce qu'en fait, comme c'était un promoteur immobilier, il possédait déjà les terres, concrètement.
Donc, sur toute la ligne.
Sur toute la ligne, en fait, c'est ça. Ils ont construit la ligne sur des terres qu'ils avaient déjà. C'est un énorme promoteur immobilier, hein, Brightline, qui est pas présent qu'en Floride. Donc ça a fait que le projet a pu se développer assez vite, notamment entre Orlando et Miami. dans l'idée notamment hein, de d'être utilisé par des touristes, en fait.
Donc ça veut dire que le train peut être rentable, puisque c'est bien l'objectif de ces consortiums.
C'est complètement l'objectif de ces consortiums. Après, ce qu'il faut regarder, parce que donc ils ont un autre projet, notamment, enfin, il y a un autre projet privé assez proche au Texas, c'est que derrière, bon, il y a quand même une recherche un petit peu de valorisation immobilière hein, de leur terrain, notamment pour valoriser la gare qu'ils ont construite en théorie, enfin, en pratique à Miami. Et la question moi que ça me pose en tant que plutôt que géographe, c'est qu'en fait ils ont construit leur gare très loin de la gare historique de Miami. Il y a pas de connexion du coup entre les réseaux de grande vitesse, enfin de vitesse un peu plus élevée et le réseau classique. Donc du coup ça crée pas quelque chose de très pratique à utiliser pour les gens. Ça reste pas pratique en fait. En Californie il y a aussi des projets privés. Il y a un projet vers Las Vegas. Et bon, il y a les fameux projets, même s'ils ont été abandonnés, d'Elon Musk, notamment le fameux Hyperloop.
Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que Hyperloop, quand même, fait à la fois rêver, en même temps que ça fait peur. Qu'est-ce que c'est Hyperloop, Charlotte Ruggeri ?
Alors, c'est censé être des sortes de capsules qui pourraient aller très très vite, jusqu'à 900 km/h, et qui transporteraient... Donc,
16 000 passagers par heure, j'ai lu.
Voilà, c'est ça. Alors cet été, il y a quand même un article hein, qui est sorti qui révélait qu'Elon Musk hein, avait lancé ce projet justement pour torpiller le projet de l'État californien.
De grande vitesse. Pourquoi faire cela ?
Je sais pas. Moi, je suis pas dans la tête d'Elon Musk. Ça m'intéresse assez peu d'ailleurs la tête d'Elon Musk, mais bon, voilà, c'est un peu ça. Mais Elon Musk, il a plein de projets. Il avait notamment un projet pour aussi lancer ses capsules à Los Angeles. Enfin, je veux dire, il réinvente le métro, quoi. C'est pas non plus...
Enfin, à 1000 km/h.
Oui, mais sauf qu'il fait ses essais au Texas depuis des années et que ça ne marche pas. Donc, le train à grande vitesse, on sait que ça marche, puisqu'il y en a qui circulent dans le monde entier. Donc, à un moment, ça peut être beau et séduisant, mais ça ne fonctionne pas. Donc
l'avancement du projet, c'est pour l'instant arrêté. Il y avait, je crois, la SNCF française qui participait autour de table.
Oui, mais il y a une sorte de fascination pour l'Hyperloop depuis des années. Mais pour le moment, ça n'a absolument pas fait ses preuves, en fait. Donc, c'est un peu. En fait, on a des très beaux trains à grande vitesse, on peut s'en contenter aussi.
La Chine également avait des projets dans certains endroits de la Californie, je crois. On imagine que les Chinois ne sont pas forcément très bienvenus en ce moment pour investir dans le ferroviaire en Amérique, Charlotte Ruggeri.
Alors, effectivement, ils ne sont pas très bienvenus, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que. Ça peut paraître étonnant parce qu'effectivement c'est un pays qui a les États-Unis qui construisent des trains et qui font circuler des trains depuis longtemps, mais malgré tout il leur manque une expérience dans la grande vitesse ferroviaire et donc cette expérience ils vont la chercher ailleurs en fait, donc dans des pays qui font circuler des trains. Et par exemple, les gouverneurs de Californie sont souvent allés en Chine ou en Europe pour voir en fait des trains circuler, voir rencontrer des industriels, des agences. Tout simplement pour essayer de s'inspirer un petit peu de ça. Parce que le projet californien, c'est un projet public, c'est un projet fédéré, d'État, de l'État californien. Donc, et effectivement, à un moment, une collaboration avec la Chine a été envisagée, mais ensuite, il y a eu beaucoup d'accidents ferroviaires en Chine, notamment sur le réseau à grande vitesse, donc ça a un petit peu calmé les projets de collaboration.
J'ai commencé à prendre le train quand je me suis retrouvé élu à 29 ans au Sénat des États-Unis. Je prenais le train chaque jour pour aller travailler, puis pour revenir chez moi, retrouver mes deux garçons que j'élevais seul après la mort de ma femme. Personne n'a autant voyagé sur les lignes Amtrak que moi.
8,000 round trips I have made, literally.
J'ai fait littéralement 8,000 allers-retours en train entre Washington et Wilmington.
Alors, s'il y en a un qui aime le train, c'est bien Joe Biden, qu'on entendait ici dans un certain nombre de reportages agglomérés. Qu'est-ce qui fait qu'il aime tant le train ? Il l'a pris beaucoup, c'est ce qu'il disait dans l'archive.
Je pense que c'est l'un des Américains qui a le plus pris le train. Je sais pas pourquoi il aime autant le train, mais je sais pas si ça s'explique quand on aime le train, on aime
vous
le train.
Vous qui aimez le train, vous pouvez bien savoir train, d'où ça vient.
je sais pas, moi j'aime les trains, lui aussi, ça nous fait un point commun. En fait, effectivement, je pense que lui, il y avait une raison très pratique, c'est que c'est un élu qui habitait pas très loin de Washington, en fait, hein, un élu... En fait, pour qui je pense que c'était plus pratique de prendre le train. Il perdait moins de temps en prenant le train pour aller à Washington siéger qu'en voiture. Ça, clairement, en fait. Et la ligne Acela, l'Acela Express, donc cette ligne à vitesse plus élevée entre Boston, New York et Washington, elle est effectivement beaucoup prise par des hommes, des femmes d'affaires, par des politiciens, des politiciennes qui se déplacent entre ces trois très grandes villes, surtout la section New York-Washington.
Ça devient une sorte de métro dans la grande conurbation de l'Est américain.
Oui. Et en fait, ça se voit même dans les prix. Hein, si vous regardez les prix, si vous comparez un trajet sur l'Acela Express ou sur un train, on va dire... classique, parce que vous pouvez prendre un train encore moins rapide sur cette voie, c'est plus cher, l'Acela Express, parce qu'on vise une certaine clientèle. Et d'ailleurs, même les publicités qu'il y a pour l'Acela Express dans les gares, par exemple à Penn Station, à New York ou à Washington, c'est vraiment des publicités qui vont vous vanter le fait de pouvoir travailler dans le train, que ça va être confortable, tout ça, quoi.
Alors, il paraît que si on a un wagon privé, ce qui arrive, la reine d'Angleterre, on l'a su cette semaine, on le savait peut-être déjà avant, en a un, on peut accrocher ces wagons privés. La société Amtrak permet qu'on les accroche sur les trains de cette société. C'est assez étonnant, non? Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça signifie quelque chose, Charlotte Ruggeri?
Oui, mais alors, enfin, ça, j'ai appris effectivement qu'il y avait des gens qui possédaient des wagons privés. Dans un reportage d'Arte, j'ai appris ça. Moi, je trouve ça hyper drôle. Moi, j'adorerais avoir un wagon privé, hein, personnellement. Et donc, effectivement, Amtrak offre cette possibilité. Et moi, je trouve que c'est assez révélateur, en fait, à la fois d'un maintien, d'une forme un peu de fascination, de nostalgie envers ce mode de transport qui a façonné le pays. Et en même temps, le fait qu'aujourd'hui, ce soit un peu une relique, comme ça, de gens qui ont le temps, qui ont les moyens, par exemple, d'avoir un wagon privé, enfin, en fait. Ou de se déplacer en train, tout simplement. Donc
ça devient, et c'est peut-être d'ailleurs la stratégie un petit peu d'Amtrak, ça devient des loisirs pour les gens, pas forcément très riches, mais en tous les cas, des gens qui ont le temps et puis qui ont un petit peu d'argent, que de prendre le train. Et d'ailleurs, les trains sont configurés aussi pour qu'on voit très bien le paysage.
Oui. Mais enfin, vous en parliez au début, c'est vrai que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a amusé, mais les noms des lignes sont des très beaux noms. Le California Zephyr, par exemple, le Sunset Limited, ça donne envie de prendre le train quand même, en fait. Et quand vous allez sur le site d'Amtrak, il y a aussi de très très belles affiches d'Amtrak, qui sont en fait qu'une forme de reprise des anciennes affiches du 19e siècle qui vantaient notamment les voyages vers les grands parcs nationaux de l'Ouest, tout cet imaginaire touristique en fait autour du train. Et le développement du tourisme dans l'Ouest et la diffusion du train sont très liés en fait aux États-Unis. Et Amtrak effectivement rejoue un petit peu sur cette association et sur ce lien. Ce qui fonctionne, parce qu'effectivement vous avez ces trains où en fait vous allez pouvoir être comme si vous étiez dans une voiture avec une grande vitre et voir tout le paysage à 360, enfin c'est magnifique en fait. Effectivement, il faut avoir du temps, mais après peut-être que c'est aussi une manière de défendre un autre type de voyage en train avec enfin le train c'est pas que de la grande vitesse en fait, c'est aussi le plaisir du voyage en train tout simplement.
Est-ce qu'il y a des trains de nuit aux États-Unis?
Alors oui, il y a des trains de nuit, mais en fait, c'est un petit peu indirect, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous voulez faire New York, Chicago, San Francisco, c'est tellement long qu'obligatoirement vous voyagez de nuit, en fait, à un certain moment.
Ça n'enlève rien au romantisme de la chose. Un grand merci, Charlotte Ruggeri, pour ce panorama géographique du système ferroviaire américain qui raconte en creux aussi la société états-unienne et son histoire. Pour aller plus loin, on trouve sur Cairn certains de vos articles, ainsi que dans la revue Urbanité que vous avez cofondée. Puis je signale aussi l'Atlas des villes mondiales sous votre direction aux éditions Autrement. C'était Géographie à la carte, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, réalisation Jean-Christophe Francis, et à la console ce soir, c'était Ludovic Auger.